Allez, on passe au chiffre de la semaine, ce qui m'a beaucoup marqué. On est descendu sur l'euro jusqu'à quasiment 95. Bon, alors on a rebondi en fin de semaine. Vous parliez tout à l'heure, je vous ai interrompu, Anna, c'était volontaire, parce que je voulais pas dévoiler le sujet d'après, mais vous dites, attention, il y a un autre sujet pour les banques centrales, c'est pas l'inflation, c'est les monnaies. Vous pouvez nous expliquer?
C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde économiquement ce qu'une dépréciation d'une monnaie peut apporter, surtout dans un scénario où la croissance mondiale sera au plus faible l'année prochaine, comme en 2008, que les marchés émergents font face à leurs propres problèmes, croissance qui est faible, Covid, la Chine qui démarre pas, les États-Unis qui sont aussi en récession, c'est sûr que ces niveaux de taux vont poser des problèmes. Et donc, en fait, quand on sait qu'économiquement, une économie comme la zone euro, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis ne sont pas du tout compétitifs avec une monnaie faible, mais plutôt importent de l'inflation, la question c'est de savoir combien on va importer, bien sûr. Et donc là, quand on regarde encore une fois des estimations passées, des cycles passés de dépréciation, au Royaume-Uni, par exemple, on a déjà eu ça en 2016, donc on était à peu près à 3 points d'inflation supplémentaire sur un an.
C'est énorme.
Pour 10% de dépréciation de la monnaie. Et en zone euro, on est à peu près à 1,5. Donc on est moins parce qu'il y a beaucoup plus de commerce intra-régional. Mais il y a beaucoup de upside qui est dû à ça. Après, effectivement, ça dépend de la facture à l'import.
Évidemment.
Vous allez me dire. Parce qu'aujourd'hui...
Non, j'allais pas le dire, mais c'est pas...
Non, mais en tout cas, les balances courantes aujourd'hui sont hyper déficitaires. À cause du poids en fait de ces factures à l'import, qu'elles soient alimentaires, énergétiques. Donc si on arrive à le contrôler, si on arrive effectivement à garder des prix des matières premières en baisse parce que le cycle est défavorable, ça peut aussi effectivement l'année prochaine se réduire. Mais on a quand même les effets de cette année parce que l'euro il s'est déprécié à peu près de 12-15% cette année, et donc ça va se voir.
Ça va être à 1,5% si je
suis. Et c'est là où les anticipations d'entreprises en fait, parce que elles ont subi la hausse des coûts des entrants, et donc à la fin de année, elles vont essayer quand même encore de remettre un petit peu plus de hausse de leur prix de vente.
Emmanuel Le Chip, quand je vous posais la question il y a quelques mois, qu'est-ce qui pourrait faire perdre aux banques leur super pouvoir? Quelle serait la kryptonite des banques centrales? Vous me disiez le cours de change, on y est là?
Non, on n'y est pas encore. Quand je disais le cours de change, parce que on voit bien que la limite à la relance monétaire, c'est quand les investisseurs finalement finissent par perdre confiance dans votre monnaie.
Là, c'est le cas en Angleterre quand même, non?
Alors là, c'est le cas en Angleterre. Alors là, l'Angleterre, effectivement, est dans une situation.
C'est le cas au Japon aussi. Quand
non, mais l'Angleterre est clairement dans une situation. Non, c'est pas la même chose au Japon. L'Angleterre est clairement dans la situation économique la pire qu'il ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, on n'est même pas comme à la fin des années 70. Parce que à la fin des années 70.
Encore un sujet sur lequel on ne va pas être d'accord.
Non, mais à la fin des années 70, vous aviez quand même des leviers d'action. Vous étiez capable d'identifier les points de friction dans cette économie britannique, et vous aviez quelqu'un qui arrivait avec une politique qui a remis de la fluidité et de la nervosité dans tout ça. Là, aujourd'hui, quels sont les instruments de politique économique qui peuvent permettre au Royaume-Uni de sortir? À l'époque, on savait que baisser la dépense publique, ça allait produire des effets positifs, que ça permettrait de baisser les impôts, etc., etc. Là, quels instruments?
Ça fait quand même un peu comme les États-Unis. La centième fois qu'on enterre la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le nombre de fois sur les plateaux français où on enterre l'Angleterre.
Enterrer, Marc, ça ne veut pas dire grand-chose. Enterrer, c'est est-ce que le pays est en train de traverser la plus grave crise économique de l'après-guerre? Moi, je pense que oui. Voilà. Et où vous tourniez, regardez les pénuries de main-d'œuvre, regardez tout ça.
En une seconde, voilà. Anna, vous partagez cette analyse très pessimiste sur la Grande-Bretagne, juste une seconde.
Une seconde.
Ouais.
On a déjà vu des chiffres aussi mauvais en Grande-Bretagne depuis Brexit, en gros. Mais je pense que c'est une matérialisation du choc Brexit qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. C'est un combo, si vous voulez, le cas d'école qu'il ne faut pas faire entre la perte d'attractivité après le Brexit, les pénuries de main-d'œuvre qui deviennent structurelles. Et puis faire encore la moitié de Covid de stimulus sans vraiment savoir comment on finance.
Et c'est la fin de cette première partie qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement réjouissante. On se retrouve en deuxième partie de l'émission et Romain Burnand va nous annoncer un nouveau crack.